à la pause, puis on faisait le commentaire la semaine passée, alors qu'au niveau de l'Église catholique, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec les baptistes, qu'est-ce qu'on va faire avec le taux de pratique qui a dramatiquement chuté, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui donnent plus, qui participent plus, en fait. Si on regarde au niveau des églises de Rivière-du-Loup, on va parler des églises catholiques, là, Saint-François, Saint-Ludger, Saint-Patrice, 7 millions de réparations à mettre sur les baptistes. Et pendant ce temps-là, comme finalement un brin de soleil qu'on n'attendait plus, on reçoit un communiqué qui dit que le 30 juin prochain, on va faire une première pelletée de terre symbolique pour une nouvelle église baptiste qui va être construite dans le prolongement du boulevard Cartier à Rivière-du-Loup. Fait que là, on s'est dit, ça vaut la peine de faire une petite entrevue avec ça. Le pasteur Hugo Étier est en studio. Bonjour, M. Étier.
Bonjour, ça va bien?
Oui. Est-ce que les catholiques sont des paresseux? Pratiquent plus, donnent plus, ils sont complètement désintéressés. Que quand vous regardez ça, sans vouloir faire de jeu de mots parce que vous n'en avez pas, vous devez rire dans votre barbe?
Non, mais je pense ce qu'on semble comprendre, c'est que peut-être la formule traditionnelle rencontre moins peut-être les aspirations spirituelles des gens ou peut-être la compréhension de la vie, puis...
Parce que, évidemment, là, quand on regarde le taux de pratique des catholiques, on se dit, ben, coudonc, au niveau des églises baptistes, parce que là, les baptistes, après ça, se divisent, là, et se subdivisent, le taux de pratique est bon. Il a l'air d'avoir quand même un taux d'implication qui est excellent également.
Oui, définitivement. Puis, moi, je pense qu'il y a une chose que j'aime partager aux gens, là, au Québec, on a été pendant plusieurs centaines d'années où il y a eu un monopole quand même avec la religion traditionnelle.
Ben oui.
Puis les gens au Québec ont eu, peut-être malgré eux, un peu une forme d'œillère, là. Puis moi, j'invite les... Chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec un Québécois de ça, je disais, ben il y a d'autres alternatives. Ouais. Si tu as encore la foi en Jésus, tu crois encore en Dieu, puis tu as le goût de vivre ta foi peut-être d'une façon un peu plus actuelle, plus contemporaine, mais les églises évangéliques sont, je pense, plus appropriées, plus adaptées aujourd'hui.
Est-ce que... Je vais faire une comparaison. Est-ce que, pour le... Vous l'avez bien dit, pour le Québécois de souche...
Oui.
Bon, premièrement, pour le Québécois de souche, quand on rencontre quelqu'un, qu'on lui donne la main, on lui demande pas, t'es de quelle religion, toi?
Non, ça va de soi.
On va plutôt lui demander, tu viens d'où? Si on le connaît pas, puis si on le connaît, on lui demande comment ça va. Au niveau de la religion, quand même, pour le Québécois de souche, d'être à une autre appartenance religieuse qu'à l'Église catholique, c'est pas la norme.
Non.
Donc, à quelque part... Soit tu le caches, ou bien tu l'affiches ouvertement.
Oui.
Presque comme une orientation sexuelle qui est différente.
Ah oui, parce qu'on est en marge, là, on doit le dire. On est quand même en marge, là.
Combien vous êtes à Rivière-du-Loup?
Ben, nous
autres... Toute église baptiste confondue, là.
D'après moi, on a peut-être entre 150 et 200, peut-être. Okay. Là, des gens engagés réguliers, là.
Oui.
Puis...
Qu'est-ce qui vous différencie, vous autres, de l'église catholique?
Ben, bon, évidemment, les églises évangéliques sont issues de la réforme protestante qui a eu lieu là, au 16e siècle. Puis, ça a été un retour aux sources en réalité. Puis, même Vatican II ont fait une tentative. Il y avait un fort mouvement lorsqu'ils ont eu ce conseil-là, Vatican II, dans l'Église catholique, de revenir à la Bible, puis d'épurer la pratique religieuse d'un paquet de rites et de traditions, voire rendu là à ce moment-là, même millénaire. Puis, il y a eu ce refus-là. Et je pense que ça a ouvert une porte.
Chez les baptistes, est-ce qu'on va à la messe?
Ben, les gens vont dire un culte d'adoration, une célébration.
Ça dure combien de temps, ça? Puis qu'est-ce qu'on fait là?
Ben, normalement, là, comme le dimanche matin, pas toutes les églises évangéliques, mais dans la nôtre, de 9h à 9h45, on a ce qu'on appelle l'instruction chrétienne. C'est adapté pour les enfants, puis une ou deux classes pour adultes. Là, on étudie la Bible, des thèmes. Ça peut être l'éducation, ça peut être... On met toujours dans une perspective biblique. Puis après ça, il y a une pause. Puis de 10h à 11h30, midi moins quart, là, on a une célébration avec des chants, un peu de prière... en public, là. Puis ce qu'on appellerait peut-être une homélie, là, une prédication biblique, enseignement de la Bible, puis après ça, on termine avec quelques chants. Puis...
Donc, si t'as des enfants, ça peut durer l'avant-midi au complet.
Oui.
Si t'en as pas, c'est une partie de l'avant-midi.
Oui, bien, si quelqu'un veut venir, puis à partir de 9h, on a de l'instruction pour les adultes aussi, là, quand les enfants sont dans des classes, là.
OK. Est-ce que dans votre religion, M. Étier, l'âge moyen de la pratique est élevé comme chez les catholiques pratiquants? Ça ressemble à quoi chez vous?
Non, ben je vous dirais ici à Rivière-du-Loup, là, étant donné qu'on est dans des...
Parce que vous, là, les gens vous voient pas, là, mais vous êtes un jeune gars, là.
Oui, j'ai en bas de 40 ans, moi.
Ben oui.
Ouais. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants. Oui. Dans le mouvement évangélique, les pasteurs sont mariés souvent. On a des, mm-hmm. on a des enfants. Moi, j'étais
Il n'y a aucune restriction par rapport à ça.
Non, aucunement. Non, même c'est favorisé. Là, ouais. Parce que si tu veux aider des familles, un petit peu faire de la relation d'aide ou de l'accompagnement. Ouais. Donc, ben, normalement, l'âge est plus bas. Ça, c'est définitif. Je dirais qu'ici, le regroupement, nous autres, le niveau d'âge est peut-être un peu supérieur. La moyenne est supérieure à 40 ans. Là, mm-hmm. Mais on voit un intérêt chez la nouvelle génération qui, elle a été un peu laissée dans un vide. Hein? Je veux dire, la génération de 40 ans et moins, là, je veux dire, la religion traditionnelle, les parents, les boomers ont comme un peu délaissé la pratique. Plusieurs d'entre eux, ils n'ont pas eu d'instruction. Donc, ils sont comme devant un petit peu un vide, puis ils se disent, ben moi, j'ai des aspirations religieuses, tu sais. Alors, on voit qu'il y a un intérêt grandissant
Un intérêt grandissant chez les jeunes, là j'en prends, puis j'en laisse, là. Parce que moi, j'entends pas souvent... Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai rencontré, vu un reportage, lu, c'est-à-dire dans que les jeunes se cherchaient une religion, ouais. qui soit à la recherche d'une certaine forme de spiritualité, mais une religion, là j'ai un peu de misère.
Ben moi, je ne dis pas pour vous contredire, c'est sûr que dans les régions, il y a, tu sais, souvent les mouvements commencent dans les grands centres, puis ça... Il y a des répercussions à long terme là, dans les régions, là, mais dans les grands centres urbains, il y a beaucoup d'églises évangéliques là, qui sont plusieurs centaines. Puis le groupe de jeunes le samedi soir, c'est 150, 200, mm-hmm. 250. Ça, c'est des adolescents. Là. Mm-hmm. Et quand on parle avec les jeunes sur la rue, moi, je suis professeur de formation aussi au secondaire, puis on voit que les jeunes ont un grand vide, mais ils ont pas de direction. Puis quand on parle avec eux, puis je dirais que surtout le sentiment aussi d'appartenance à une communauté, là, aujourd'hui, de plus en plus, on est comme cloisonné puis individualisé avec les médias sociaux, mm-hmm. Mais les jeunes cherchent de la camaraderie. Ils veulent un sens d'appartenance à une communauté. Puis les églises offrent ça. Puis ça, on le voit fortement, les jeunes. Quand les jeunes découvrent l'église évangélique, ils sentent une famille, une appartenance. Puis en plus, ça vient dans leur trip, comme on dit. Puis...
Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Et je vais revenir sur probablement la première ligne de l'entrevue il y a 6 minutes. C'est que vous avez dit... À peu près ceci, les gens qui se cherchent mm-hmm. une religion ou une appartenance mm-hmm. à une religion. D'abord, faut-il qu'on veuille appartenir à...
Définitivement, oui.
Hein? Être sous le parapluie d'une religion donnée.
Oui. Moi, j'aime citer Blaise Pascal, un grand mathématicien des siècles passés. Blaise Pascal a dit un jour, il y a dans le cœur de tout homme un vide en forme de Dieu. Et moi, je suis persuadé de ça. Là. Peut-être que vous allez dire, ben, t'es vraiment militant à matin, là, mais dans le cœur de tout homme, il y a un désir de connaître Dieu, qu'on l'appelle Vishnu, Krishna, Allah. Dieu. Les êtres humains cherchent le divin.
Ouais.
Puis, mais évidemment, tant qu'on décide, soit qu'on n'est comme pas convaincu ou que ce qu'on nous offre nous est pas crédible, bon, on va essayer de le combler avec toutes sortes d'autres choses, les loisirs, la sexualité sans limite, la drogue, on connaît les paradis artificiels, ces choses-là. Donc, les gens vont chercher à combler ce vide-là, mais en réalité, seulement Dieu peut prendre cette place-là dans le cœur de l'être humain.
Je ne sais pas ce que ça donnerait si on avait un groupe d'appartenance qui se formait, qui, sans appartenir à aucune religion, sans faire référence à aucun Dieu, prônait tout simplement de bonnes valeurs sociales. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup d'adeptes. Ce n'est pas vous qui allez répondre à ça ce matin, parce que c'est le cas de le dire, vous prêchez pour votre paroisse. Mais je me suis toujours posé la question, moi, pourquoi les gens ont besoin de faire référence à un Dieu pour mettre dans leur vie des valeurs sociales, des valeurs de relations d'aide, des valeurs de relations humaines qui seraient à la fois bien structurées et surtout constructives.
Ben, je pense que vous avez raison, dans le sens que l'être humain a un sens moral, là. Je pense des fois il est tordu ou il peut être altéré.
Élastique,
exactement comme vous dites. Puis, je veux dire, les philosophes grecs tendaient vers ça. Ils essayaient de trouver juste comme des bonnes valeurs, d'avoir un équilibre dans la vie sans la divinité. Mais ce qu'on voit, c'est que la notion de Dieu revient tout le temps parce que l'aspiration humaine dépasse plus que juste d'être une bonne personne.
On
a, la Bible dit qu'on a dans notre cœur la pensée de l'éternité. On a cette conscience-là qu'il y a...
Mais en même temps, est-ce que c'est pas... Parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis j'ai autant de fun à en parler avec vous qu'avec le curé de la paroisse Saint-Patrice ou l'évêque du diocèse. Oui. Est-ce que c'est pas parce que, dans le fond, on a tellement peur de s'avouer que ça se peut qu'après il n'y ait rien, qu'on s'invente finalement des scénarios d'éternité.
Oui, bien, je veux dire, c'est possible. Moi, je pense qu'il y a des certitudes. Ouais. Souvent, je prends l'exemple avec, une voiture. Tu sais, je demande aux gens qui croient tout simplement pas en Dieu, qui se disent athées, je dis, est-ce que tu penses que la voiture là, qui sort de l'usine pourrait être exister là, dans son état actuel par le simple fruit du hasard? Ben, souvent, les gens vont dire, ben, c'est un petit peu forcé, tu sais. Ouais. Fait qu'on admet que quand Voltaire a dit lui-même, il dit, quand on voit une belle machine, on peut dire qu'il y a un grand concepteur en arrière.
Ouais.
Donc, quand on regarde le corps humain, moi, je dis aux gens, écoute, une auto, graphing-la, elle ne se régénérera pas par elle-même.
Ouais.
Fais une scratch sur ton bras, là. Puis c'est drôle, après quelques semaines, ça va être guéri.
Ouais.
C'est fort.
On n'embarquera pas dans ces grandes théories-là, parce que là, on pourrait parler des cellules de base, puis multiplication de cellules, association de cellules et tout ça qui ont mené finalement aux créatures vivantes et à toute l'histoire. Puis on n'a ni le temps ni les moyens de s'embarquer là-dedans probablement, et surtout pas moi. Mais c'est intéressant de vous jaser parce que il y a une forme de curiosité à voir que d'un côté ça fonctionne et de l'autre côté ça fonctionne pas. Je parle de la pratique religieuse catholique versus la pratique d'autres religions. Et j'ai le goût de vous demander en dernière question. La religion catholique a été pendant des années une religion dominante, une religion à la limite d'oppression. Est-ce que c'est parce qu'on est dominant et qu'on exerce une certaine forme de pression, d'oppression dans d'autres religions, dont la vôtre, qui fait que le taux de participation, d'une certaine manière, se maintient? En d'autres mots, faites-vous peur au monde pour continuer d'exister?
Ah non, pas du tout. Mais moi, je crois que nous autres, souvent, on dit aux gens, on parle pas d'une religion, personnellement, on parle d'une relation avec Dieu.
Ouais.
Puis on croit que ça vient du cœur. Nous autres, il n'y a personne qui vient forcer à nos réunions, là. Puis ce qui est arrivé, c'est que justement, pendant des siècles, moi, j'ai été baptisé catholique. Puis honnêtement, là, j'ai aucun souvenir de mon baptême. Puis Jésus n'a pas pris de sens dans ma vie avant l'âge de 19 ans.
Je pensais que n'a pas pris de photos.
Mais quand ça vient du cœur, les gens sont motivés. Et peut-être, si vous permettez juste quelques secondes,
oui.
M. Saint-Pierre, moi, j'invite les Québécois à dire, bien, il y a peut-être d'autres alternatives.
Oui.
On va partout dans les Maritimes, dans le Canada anglais, aux États-Unis. Tu arrives dans un village gros comme l'Île Verte, tu peux trouver 4 chapelles différentes.
Mm-hmm.
Puis il n'y a personne qui est choqué de ça. Il n'y a personne qui va dire, ça, c'est l'Église, la vraie, puis les autres sont des sectes. Il y a d'autres alternatives.
Et de plus en plus.
Ben oui, c'est ça. Puis au Québec, je pense qu'on est rendu là. De dire, il y a peut-être d'autres choses.
M. Étier, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'être venu nous rencontrer, d'avoir conversé ouvertement sur la situation.
Ben, je vous remercie.
10 ans moins 5.